France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Roisin Murphy. Vers 19h45, le son du jour, ce sera P-A-L-O-M-A de Paloma, Rome et Rebecca Warrior. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à la 17e édition de Drawing Now Art Fair, le salon du dessin contemporain qui se déroule au Carreau du Temple à Paris ce week-end. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Pujon à la prise de son. Bonsoir, Roisin Murphy.
Good evening to you.
Vous étiez hier au soir en concert à l'Olympia à Paris. Vous êtes au cours d'une tournée qui repassera d'ailleurs par la France avec Rock en scène. Ce sera le 22 août prochain. Entre-temps, il y aura Barcelone le 29 mai, Mannheim le 31 mai, puis l'Amérique du Nord au mois de juin, Brooklyn, Miami, Toronto, Chicago. Puis ça continuera en octobre et novembre aux États-Unis. En tout cas, on en profite pour vous accueillir, pour essayer d'en savoir un peu plus sur votre parcours et sur vos méthodes de travail. Et puis Florence Roucou-Conan est déjà à l'œuvre avec nous en studio pour assurer la traduction de cet entretien. Bonsoir à elle et merci à elle, Florence. Alors, on se demande à quoi ça ressemblait de grandir, comme vous, à Arklow, petit village du comté de Wicklow, sur la côte est de l'Irlande, dans les années 70, au début des années 80. Il faut dire que votre mère était antiquaire, que vous aviez un oncle, Jim, qui jouait du jazz, que vous aviez une tante qui, elle, était une reine de beauté dans les années 60, qui vous empruntiez pas mal de vêtements au fil des années. Mais celui avec qui vous avez passé le plus de temps, c'était votre père, un homme d'affaires qui, dites-vous, a installé les meubles dans un quart des pubs d'Irlande, ce qui fait beaucoup de pubs. Un père qui connaissait des centaines de chansons par cœur. Vous avez quel souvenir avec lui, Roisin Murphy?
Oh, lots of singing.
On a beaucoup chanté.
He sang everywhere.
Il chantait partout. Nous chantions partout, dans la salle de bain, pendant des heures, avec une bouteille de vin. Mais peut-être deux fois par mois. On chantait dans la voiture, à la piscine, dans la rue. Et puis, ce n'était pas une centaine de chansons, c'était beaucoup plus que ça. En fait, tout le monde dans la famille connaissait au moins une centaine de chansons, mais mon père en connaissait beaucoup plus. Il connaissait aussi des poèmes, des passages entiers qu'il récitait de Shakespeare.
He was an extraordinary person.
C'était une personne extraordinaire.
Et puis vous l'accompagniez parfois dans ces pubs, dans ce monde d'adultes.
Yes, absolutely.
Oui, bien sûr.
We would go for a day's drive with him.
On partait pour la journée en voiture et puis on s'arrêtait dans des pubs divers et variés à travers le county. Tout le monde connaissait Nicky Murphy. En fait, je suis surtout la fille de Nicky Murphy plutôt que d'avoir mon propre prénom.
Alors, quand vous avez 12 ans, Roisin Murphy, la famille déménage à Manchester et là, ça va être l'ouverture à un autre monde, notamment quand vous allez voir Sonic Youth en concert. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là?
Yes, it was significant to see Sonic Youth.
Oui, ça a été un grand moment. J'avais 14 ans à ce concert lorsque j'y suis allée.
It was an incredible show. They were being supported by Mudhoney.
C'était un concert génial. Ils étaient accompagnés par Mudhoney, qui était sans doute.
And I was allowed to sit on the side of the stage.
Un grand moment et moi j'avais le droit d'être sur le côté de la scène, bien sur scène, mais sur le côté. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte que je n'avais pas le droit pas d'aller dans la fosse. J'étais trop petite. Et c'était dingue. Et tout le monde lançait des objets divers sur la scène, qu'il renvoyait d'ailleurs. J'ai vu aussi Kim Gordon qui a été littéralement jeté dans le public. Enfin, et je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. Moi, j'aimais déjà la musique puisque j'ai été élevée en aimant la musique. Je ne me souviens pas du premier concert que j'ai vu. Parce que, en fait, on allait voir mon oncle, hein, qui jouait donc du jazz plusieurs fois. Mais le vrai concert, le vrai premier, c'est Queen, en Irlande. Et ensuite, j'ai vu aussi David Bowie à Manchester. J'avais aussi vu Sisters of Mercy.
But it didn't really have the same effect on me as Sonic Youth.
Mais je crois que c'est Sonic Youth qui m'a fait le plus grand effet. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue obsédée par aller voir un maximum de concerts. J'ai commencé à collectionner, à acheter des disques. Et puis je me suis fait des amis presque exclusivement qui aimaient la musique. En fait, tous les gens qui sont proches de moi aiment la musique, donc c'est quelque chose qui m'accompagne.
Vous êtes encore adolescente. Ah non, je fais juste une petite incursion dans une vie plus privée, mais quand vos parents divorcent et décident de retourner en Irlande, mais ce sera sans vous, Roisin Murphy. Vous décidez de rester en Angleterre. Quelle vie est-ce que vous rêviez pour vous à ce moment-là?
I didn't have a plan.
Je n'avais aucun plan.
At all.
Du tout.
I just did not want to return.
Je savais que je ne voulais pas retourner en Irlande, donc repartir en arrière. Moi, j'avais envie d'avancer. Et c'est pour ça que j'avais donc tous ces amis. J'écoutais, évidemment, Sonic Youth, je l'ai déjà dit, mais d'autres aussi. Beaucoup de pop. Tout le monde en Irlande aimait le heavy metal. Moi, non, j'avais pas envie d'y retourner, pas de retourner avec ma maman. J'avais envie de rester là.
Et puis de rencontre en rencontre, vous allez vous installer à Sheffield, vous allez rencontrer Mark Bryden, avec qui vous allez former le groupe Moloko. C'est une aventure qui va durer 10 ans, le temps de 4 albums, et notamment, bien sûr, ce titre. Un extrait, même si vous l'avez encore chanté hier soir à l'Olympia, parce que ce sont vos morceaux à vous, Roisin Murphy, qu'on va entendre en entier ce soir. Installé à Londres, après la séparation de Moloko, il faut sans doute digérer cette séparation. Et c'est dans le studio de votre ami Matthew Herbert que vous allez enregistrer vos premiers titres, d'abord qui sortent sur 3 EP. Ce qu'un 1, 2, 3, puis ce sera l'album Ruby Blue. Vous dites que Matthew Herbert vous imposait des horaires de travail, 11h-18h. Ça ressemble évidemment à une contrainte, mais est-ce que ça n'a pas été plutôt une impulsion pour votre travail ?
Oui, certainement. Il était assez paternaliste d'une certaine façon.
Je
pense que
Matthew
me connaissait bien et en fait j'étais pas en grande forme lorsque j'ai commencé et lorsqu'on commençait le matin surtout, puis on terminait et ça allait beaucoup mieux. Donc Moloko a mis longtemps à se terminer, ça nous a pris 2 ans, donc c'était une fin continuelle et j'avais vraiment pas le moral. Et je ne savais pas je pouvais faire un disque, en tout cas je ne connaissais rien d'autre que la configuration précédente à Sheffield, avec mon ami quand même, mon partenaire de vie. Je ne savais d'ailleurs même pas si j'avais pris la bonne décision en décidant de faire de ma vie la musique, ma vie. Mais Matthew, lui, il le savait. Lui, il savait qu'il pouvait faire quelque chose avec moi, de moi, et quelque chose de particulier.
Et
je dis toujours que mon travail n'a jamais été prévu, planifié. Je vis ma vie et le travail en découle. Matthew a fait des remixes de Moloko. J'ai travaillé avec lui, j'ai chanté avec lui, puis c'est devenu un ami surtout. Presque tout ce que je fais découle de ma vie. Les gens rentrent dans ma vie et les choses rentrent aussi dans ma vie.
On va voir en effet que c'est, il me semble, la façon dont vous faites les disques, Roisin Murphy. Ce premier album est bien reçu, sauf par votre maison de disques. Bon, ça, vous allez en changer. Puis vous inaugurez une nouvelle façon de travailler pour le deuxième album, pour Overpowered, qui sortira en 2007. Vous allez de par le monde et vous travaillez avec différents artistes, mais c'est vous qui contrôlez l'ensemble. Avec cet album, on a le sentiment que c'est, alors je ne sais pas si c'est une renaissance ou peut-être la véritable naissance de la musicienne que vous êtes. Est-ce que vous avez ce sentiment pour vous aussi ?
I don't really. There's just a seamless transition from record to record.
Il y a une transition vraiment harmonieuse d'un disque à l'autre. Même pour Moloko, à la limite, déjà à cette époque-là, je ne me disais pas on a fait quelque chose de différent. Et plus tard non plus. Moloko était fait d'une manière privée à Sheffield. On ne pensait pas d'ailleurs toucher un grand public. Et je suis toujours de cette manière-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si je demandais un avis avant que mon travail soit terminé, ça enlèverait la magie. Donc, je ne me pose pas la question de savoir si je suis une artiste, ma propre artiste, enfin. Je n'ai jamais vraiment eu l'impression qu'on essayait de me formater. Mais peut-être parce que, une fois de plus, c'est un accident. Enfin, je suis devenue chanteuse par hasard. C'était vraiment, ça faisait partie de ma vie et c'est arrivé dans ma vie. Le fait que l'on n'ait pas soit passé de Moloko à Roisin Murphy, enfin, ça n'a pas été très renversant, c'est pas un événement. Je fais de la musique de manière très libre, peu importe comment.
Alors, il y aura plusieurs années d'absence musicale, mais durant lesquelles vous n'êtes pas inactive, Roisin Murphy, puisque vous faites 2 enfants, ce qui est quand même une très belle production. En 2014, on vous entend sur le morceau « Don't You Agree » dans le concept album « Here Lies Love » avec David Byrne et Fatboy Slim. Cette même année, il y a un EP, 6 morceaux en italien, « Mi senti », des compositions originales mais aussi des reprises. Et puis vient ce 3e album solo, « Airless Toys » qui paraît en 2015. 8 ans après le précédent. Il y en aura un autre l'année suivante, Take Her Up to Manto, puisque ce sont les mêmes sessions finalement en fait avec Eddie Stevens qui ont donné tous ces morceaux. 2 albums très écrits, très riches. Quelle a été la méthode de travail pour ce grand retour en fait pour vous à la musique ?
Yeah, that did feel. I mean, the Mi Senti project, the Italian.
Le projet Mi Senti en italien était effectivement comme une renaissance. C'était un projet qui avait de la manière, parce qu'avant c'était une chanson par-ci, une chanson par-là. Une participation, y compris Simulation, qui est venue ensuite, a été intégrée sur un album, mais beaucoup plus tard, sur le projet de Roisin Machine. Mais donc ensuite, j'ai rencontré mon partenaire, Sebastiano Provazzi, et donc j'ai fait une chanson pour son projet, qui s'appelait Flash of Life. On est tombé amoureux. Et il m'a présenté quelques chansons, en particulier une qui avait été écrite par son oncle, qui était Non Credere. Et ensuite, une fois qu'il a été parti, j'ai écouté cette chanson tout le temps sur YouTube. Et puis finalement, sans rien comprendre, je pouvais le chanter. Je ne comprenais pas les paroles. Mais voilà, j'ai appris par phonétique. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa si on l'enregistrait. Alors, on a enregistré différents morceaux classiques italiens. Et Eddie Stevens a été impliqué par mon souhait parce que c'était plus difficile presque de. Enfin, c'était pas difficile de les chanter, mais c'était difficile de se les approprier parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas comme on le fait maintenant. Il y avait des changements de registre, il y avait des arrangements qui étaient particuliers. Et c'était pas la même chose que de la musique sur laquelle on danse. Donc j'avais besoin de Eddie Stevens pour en faire quelque chose qui sonne bien. J'avais besoin d'un vrai musicien pour nous aider, d'ailleurs, mon mari et moi, enfin mon ami et moi. Donc on a fait Mi Senti à trois.
And then I saw, oh, this musical director, he's become
ensuite,
an amazing producer.
J'ai vu que Eddie, pendant le temps où j'avais moi fait les enfants, était devenu un producteur extraordinaire. C'était un musicien vraiment génial. Et c'est comme ça que, voilà, on s'est décidé à faire cet album ensemble. Et c'est comme ça que l'on a fait aussi les deux suivants que vous avez cités tout à l'heure, Take Her Up to Monto et Hairless Toys. Voilà, c'était une transition presque naturelle. Mais c'était une fois de plus des gens qui faisaient partie de ma vie.
Alors pour nous rapprocher encore un peu plus du présent, en 2018, il y a des Maxi 45 Tours, plusieurs, en collaboration avec le producteur de House, Maurice Fulton. Puis donc cet album Roisin Machine en 2020, produit par Richard Barratt, un des pionniers de la House de Sheffield. Ce qui change à ce moment-là, c'est que vous avez votre propre studio à domicile. Alors, on se souvient tout à l'heure Matthew Herbert qui vous imposait des horaires. Là, est-ce qu'il faut vous imposer de ne pas travailler, Roisin Murphy? Qu'est-ce que ça change d'avoir un studio chez soi?
Well, the person who told me to do that was Stefan.
C'est Stéphane. C'est DJ Coase. Stéphane, qui avait travaillé déjà sur le dernier album. Et ça a commencé. Enfin, qui a travaillé sur le dernier album. Et ça a commencé il y a 7 ans. Et juste après lui avoir offert deux chansons pour son album à lui. Il est très particulier. Il m'a dit, bon, je vais faire un disque, mais il faut que tu fasses ceci, cela, comme ci, comme ça. Je me suis dit, bon, d'accord. Il faut que tu apprennes à gérer tous les logiciels de musique. On va pas forcément mixer beaucoup en studio. Voilà. Alors, il disait, je voudrais que tu utilises le même logiciel que moi. Bon. Donc, j'ai commencé à me familiariser avec ces outils de manière à ce que je puisse écrire à n'importe quel moment, comme il le voulait. Voilà, il fallait que je fasse, que je puisse passer l'aspirateur tout en ayant une mélodie en tête et que je puisse aussi enregistrer le début avant qu'il vienne travailler dessus. Voilà, ça, effectivement, ça a changé. Donc, sur la deuxième moitié de Roisin Machine, je travaillais aussi sur Hit Parade. Et lui travaillait sur Hit Parade. Mm-hmm. Parallèlement, en fait, c'est un travail un peu en parallèle. Et lorsque le confinement est arrivé, je maîtrisais à peu près bien la chose et j'ai pu finir Roisin Machine.
Alors, de fait, c'est vrai que Hit Parade, le dernier album en tête, en date, qui reste dans ma tête, avec DJ Kotze, Stéphane Kozala. Vous, lui à Hambourg, vous beaucoup à Ibiza, un peu à Londres. Pour mieux comprendre encore et savoir comment naît un morceau, on va écouter dans un instant « Hurts So Bad ». Ça commence par quoi, un morceau, ou ce morceau-là? Est-ce que ça commence par une ligne mélodique, par un rythme, par des paroles?
Non, ça commence toujours par la musique.
C'est d'abord la
musique et ensuite on travaille sur les paroles. Mais enfin, ça a beaucoup changé hein, entre le début et la fin.
Dans ce cas-là,
lui, il a changé beaucoup de choses. Je fais par exemple les paroles, la partie vocale. Quelquefois, il travaille dessus 2 heures plus tard, quelquefois 2 ans plus tard. Donc là, c'était très 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 différent cette fois-ci.
On écoute ce morceau.
You were sending signals.
You sent certain signals to me. supposed to be a bomb. Honey, I'm a great
stain. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Ooh, it hurts so bad.
C'était Earth So Bad, c'est un extrait du dernier album de Roisin Murphy, It Parade. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas encore, on entend cette voix tout à fait exceptionnelle. Et puis on peut voir, j'ai eu la chance d'être parmi les nombreux spectateurs hier de l'Olympia, de voir que cette voix, elle est là aussi en concert. Quel rapport vous avez avec votre propre voix, Roisin Murphy?
I guess I haven't been a very respectful singer.
Je pense que je n'ai pas toujours été très respectueuse de moi-même et de ma voix en tant que chanteuse. J'ai découvert ma voix en avançant. Ma carrière est marquée par l'expérimentation, mais pas vraiment en tant que chanteuse. Parce que vous vous souvenez que j'ai commencé ma carrière en disant « Est-ce que tu aimes mon t-shirt ajusté ?» Et c'est comme ça, enfin, bon, voilà, j'ai appris à chanter au fur et à mesure. Mais, bon, bien sûr, je chantais en tant qu'enfant, mais à cette époque-là, en Irlande, tout le monde chantait. Et même des gens qui ne savaient pas chanter, chantaient souvent, d'ailleurs beaucoup trop.
I'm not a perfect singer, you know.
Je ne suis pas une chanteuse parfaite. Je pense que je me suis améliorée au fil du temps parce que j'ai appris un peu de technique, mais pas de la technique que l'on m'aurait enseignée. C'est juste de l'amélioration grâce à la répétition.
There's nothing about me that's been taught, actually.
On ne m'a en fait jamais rien enseigné, à vrai dire.
I've learned as I've gone along.
J'ai tout appris en avançant dans la vie.
But I do recognize that some people have very good technique.
Certaines personnes ont une technique formidable, mais l'oreille n'a pas envie de l'entendre.
And then some people can have no technique.
D'autres personnes n'ont pas de technique, mais ça plaît et ça plaît à nos oreilles. Sur Hit Parade, je suis assez contente de ce que je donne à entendre. C'est vrai que ma voix et Steve m'a dit d'ailleurs qu'il me placerait au milieu de tout cela. Et il m'avait dit à l'époque, tu verras, ça sera génial, on t'entendra, toi. Je suis au milieu du mix.
Voilà.
De toute façon, personne ne pouvait faire un meilleur son.
Il a tenu
parole, parce que c'est vrai que la voix est très présente,
ouais,
et elle brille.
Mais encore une fois, quand on vous entend en concert, on entend que cette voix, elle est capable de beaucoup de registres. C'est ça qui est très étonnant, c'est que vous pouvez passer très facilement du funk à l'électro, de la house à un côté cabaret, à une balade. Vous êtes à l'aise dans tous les registres.
You feel comfortable with all those different ways of singing.
Yeah, I think I'm a storyteller with my voice.
Oui, parce qu'en fait, je raconte une histoire avec ma voix.
So that's obviously the way I grew up as well.
C'est aussi le reflet de mon enfance. J'ai grandi avec ça, puisque on raconte des histoires en chantant les uns avec les autres.
So I find that important, and I find it
très important, et je trouve aussi important d'articuler, que l'on entende les mots, de s'exprimer. Évidemment, il y a un langage corporel, bien sûr. Et d'ailleurs, à la limite, si on comprend pas l'anglais, on peut peut-être aussi comprendre j'entende de par mon corps, l'expression corporelle, ce que je dis.
Oui, parce qu'il y a aussi tous ces très nombreux changements de tenue pendant le concert, beaucoup d'accessoires, on va dire, comme si à chaque fois vous étiez un nouveau personnage.
Yes, I like to create in different rooms.
Oui, j'aime bien créer des ambiances différentes. C'est presque architectural de faire un concert comme celui-là, de l'orchestrer de cette manière-là, comme si on passait d'une pièce à une autre.
Alors, justement, à propos de concert, je voudrais qu'on entende quelqu'un que vous aimez, je crois. Je préviens mes camarades en régie que c'est l'archive numéro 5 hein, qu'on va envoyer. c'est parce que j'ai beaucoup pensé à elle en vous voyant hier soir sur la scène de l'Olympia. On va écouter un court extrait d'un entretien donné par Grace Jones.
When I'm performing like this,
lorsque
it's
je
like
suis
my
sur
party.
Scène comme ça, c'est vraiment, c'est ma place à moi, c'est mon rôle à moi, c'est là que je peux, sur ce terrain-là, m'exprimer librement. Et puis je peux aussi envoyer cette expression qui sort de moi très loin, aussi loin que possible. J'essaie de ne pas chanter que pour les premiers rangs. Je chante aussi pour ceux qui sont tout au fond de la salle. Même si d'ailleurs ils ne sont même pas dans la salle ou dans le parc, ce que j'espère, c'est que, ce que je veux en tout cas, c'est que ma voix, elle se diffuse dans l'air. Vous savez, le vent porte la voix. Voilà, et alors que je suis sur scène, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que je ressens.
Alors, Grace Jones, oui, envoie sa musique dans l'air. J'ai cette impression aussi, en vous voyant, Rachel Murphy, vous chantez pour toute la salle.
Oh yes, of course.
Bah oui,
that's
bien sûr.
That's a nice idea.
Bien sûr, c'est la chose à faire.
Is the best moment of my life.
Le moment où je suis en scène. C'est le meilleur moment de ma vie, c'est la performance, c'est vraiment le meilleur moment. Et quand on est dans le flow, alors là, c'est grandiose. J'ai des choses à faire, c'est vrai, il faut que je pense à où je vais mettre les pieds, où je vais aller, où je vais me placer, comment je vais me changer, puisque je me change souvent, etc. Il y a pas mal de choses, effectivement, dont il faut se souvenir. Et puis finalement, on ne se souvient pas de tout, mais ce n'est pas grave. Je pense que les sportifs de haut niveau doivent être à peu près dans la même situation. C'est le flow qui vous porte. C'est une sensation extraordinaire. Mais le jour où je pourrai plus, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais faire d'ailleurs peut-être du jardinage?
Mais vous avez encore de longues années devant vous. Et pour dire à quel point le contact avec le public est important pour vous, Rachel Murphy, hier soir encore, comme vous le faites régulièrement, vous êtes allé faire des câlins aux spectateurs des premiers rangs de la fosse, tout en continuant à chanter parfaitement, je précise. Ces moments-là, vous les vivez, qu'est-ce qui se passe en vous ?
Everything is happening and nothing, you know, there's a stillness in the midst of everything.
Voilà, je suis emportée. Donc je suis emportée donc aussi par le public et j'adore être connectée avec le public. Lorsque Maloko a été créé, c'était une époque où la musique dite sérieuse devait être sérieuse. C'était une époque où j'avais l'impression que c'était, enfin, qu'il était essentiel de ne pas se cacher, de ne pas rester dans l'ombre, de s'exprimer, de s'habiller et de se connecter au public de manière à ce que je puisse raconter mes histoires à des vrais gens. Et je me suis dit que si j'apparaissais simplement en t-shirt et en jean, de manière très authentique, entre guillemets, ça ne serait pas authentiquement moi.
And so, regardless as to how much
Donc, peu importe ce que cela déclenche dans l'esprit d'un journaliste critique de musique, ça m'est égal, j'ai continué sur cette lancée. Et je ne pense pas être prétentieuse en faisant ça. Je crois que c'est plus important dans la performance que les gens aiment ça, et je trouve ça super, et je me trouve très bien. Et ils pensent d'ailleurs, j'espère aussi, que je suis génial.
Ouais, je crois que beaucoup de gens partagent cette opinion, en effet. On va entendre un autre extrait de ce nouvel album, une version édite, mais faite par DJ Kotze. C'est You Knew, amour, humour d'ailleurs, encore au rendez-vous de ce morceau. Alors, celui-là, est-ce que vous souvenez comment il est né?
This was also another one that was extremely different.
Totalement différent. Une fois de plus, il a fait beaucoup de choses du point de vue vocal. Il a bidouillé littéralement sans avoir beaucoup de respect pour ce qu'il y avait initialement. Je crois que la capacité que j'ai de travailler par exemple avec quelqu'un comme Stéphane Cozy, c'est que j'ai une patience d'ange, et même quand les alarmes se déclenchent, ça m'est égal, je les laisse se déclencher, je les laisse sonner, je reste tranquille et je mets mon esprit un peu au repos. Parce que pour moi, il est important aussi que son travail soit montré et soit révélé. Donc, et c'est réciproque d'ailleurs, lui aussi veut que je sois en première, vraiment en première partie de cela. Et il travaille. C'est un bourreau de travail quand il s'y met. Il met énormément de choses à la poubelle, par exemple. De temps en temps, voilà, il faut pouvoir respirer et dire, c'est bon, ça va aller. Ça va se faire. Donc, je suis extrêmement patiente. Et ce qui est important, c'est que la musique soit au centre de tout ce que je fais. Hier soir, c'était moi. Tout ce que vous avez vu sur l'écran, les lumières, la manière dont tout est organisé, tout ça, c'est moi. Mais au début de chaque chose, c'est d'abord la musique et la coopération, où je contrôle un peu moins. Et je me permets aussi d'être hors contrôle. C'est un très bon exemple de quelque chose qui, par exemple, au départ m'effrayait, et maintenant, c'est génial. Que l'on ait pu rendre ce travail-là en live, ça, c'est très, très important pour le spectacle, pour le concert.
On va évoquer cette dimension après avoir écouté la version Edit Doc de You Knew.
Do you just won't go there with me?
You knew. Alors effectivement, c'était une des questions que je me posais en venant hier soir à l'Olympia. Comment transposer ce morceau en version live? Alors il faut dire que vous avez avec vous 5 musiciens extrêmement talentueux. Certains jouent de plusieurs instruments et c'est bien nécessaire pour passer dans ces différents registres. Mais pour un morceau comme You knew, par exemple, on est dans une musique très expérimentale quasiment. Vous proposez une chose très radicale et moi j'ai beaucoup aimé cela.
I have the most extraordinary music director.
Bien sûr, j'ai aussi cet arrangeur extraordinaire, hein, le meilleur, Eddie Stevens, travaille avec moi depuis 27 ans.
And the fact that I can make these really esoteric electronic records.
Et le fait que je puisse faire des choses aussi hystériques, voire électroniques, etc., que je lui amène tout cela, lui, il en fait vraiment quelque chose qui va être live, qui va être de la musique. Voilà. Et bien sûr que je pourrais faire des tas de shows, on va dire, hein, vraiment au sens spectacle, avec des danseurs, ça serait un petit peu plus explosif, il y aurait moins de musiciens. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient ça, parce qu'ils pourraient se concentrer peut-être, parce que la plupart trouvent sans doute difficile de se concentrer sur la musique qu'on leur propose.
Donc,
mais je pourrais donc faire faire du One Woman Show avec un grand écran et puis je pourrais grimper dans l'écran et puis les gens aimeraient bien ça et puis on aimerait bien ça, on pourrait l'exporter hein, dans des clubs et puis dans des hangars et des entrepôts où on organise des soirées privées. Mais il faut, c'est quand même bien d'avoir des vrais musiciens. Oui, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Ça demande des semaines et des semaines de pré-production, de répétition. C'est beaucoup de travail et on peut se planter aussi à n'importe quel moment. Mais c'est l'épice de la vie, le sel de la vie.
Intense, c'est le mot que je retiens en effet, qui va très bien à votre musique, Roger Murphy, que ce soit en studio ou en live. Le dernier disque en date, c'est donc Hit Parade, sorti chez Ninja Tune. Vous repasserez par la France le 22 août prochain pour Rock en scène et puis beaucoup de concerts. On va sur le site de Roger Murphy pour découvrir toutes ces dates. Merci à Florence Roucou-Conan qui a assuré la traduction de cet entretien. Grand, grand merci à vous, Roger Murphy, d'avoir été notre invité.
Non, merci. Thank you.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Fondé en 2020, le label Warrior Records annonçait d'emblée porter des valeurs queer, transféministes, antiracistes et résistantes. Sa tête pensante, l'inimitable Rebecca Warrior, qui fut notre invitée, qui est une habituée des collectifs, puisqu'elle a déjà mené 3 projets musicaux en duo, Sexy Sushi avec Collège, Mansfield Tia avec Carla Palone et Compromat avec Vitalik. En orchestrant la première compilation du label, Rainbow Warriors Volume 1, elle projette un espace queer et festif sur lequel 15 artistes de différents horizons interviennent, parmi elles la productrice et DJ roumaine Borussiad, la chanteuse japonaise Zombie Chang ou encore la polyvalente circassienne et actrice Vimala Ponce. En attendant la sortie digitale et physique de l'album le 26 avril prochain, le label a eu la bonne idée de diffuser le morceau Paloma. Produit par Rome et écrit par Rebecca Warrior, il est interprété par la drag queen Paloma, grande gagnante de la première édition du concours Drag Race France. C'est notre son du jour.
Je déambule tard dans la ville. J'ai mis mon plus joli visage. Je suis agile et volubile. Mais c'est grâce à mon maquillage. Qui sait qui je suis dans le fond? C'est mon secret le mieux gardé. J'ai beau m'afficher ma vie sous reste de cacher mon cœur brisé. Je suis toi et tu es moi, Paloma. Tu crois.
C'était P-A-L-O-M-A de Paloma, Rome et Rebecca Warrior. Une tournée des Rainbow Warriors s'est annoncée. Elle passera par Paris le 4 mai, Strasbourg le 18, Nantes le 7 juin et Lille le 22 juin.
France Culture, le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je poursuis mon périple dans ce grand événement qu'est le printemps du dessin. Hier j'étais à Amiens, au FRAC, qui exposait trois propositions dans ce cadre-là. Et puis ce soir je vous propose d'assister à l'ouverture du salon du dessin contemporain. C'est à Paris, au Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement. Du 21 au 24 mars, il y aura donc 73 galeries et plus de 300 artistes qui se donnent rendez-vous pour cette grande fête du dessin contemporain.
Bonjour, je suis Christine Fall, la fondatrice de la foire de dessin contemporain Drawing Now Art Fair et aussi du Printemps du Dessin et d'un centre d'art expérimental, le Drawing Lab.
Est-ce que vous pourriez, avant de parler de ce salon-là, nous expliquer ce que c'est ce Printemps du Dessin, depuis quand ça existe et qui est concerné ?
Alors le Printemps du Dessin est, je dirais, un complément à la foire au sens où il n'est pas du tout un événement commercial, mais un événement culturel qui se déroule dans toute la France, avec l'idée pour nous de favoriser la visibilité de toutes les expositions, les rencontres qui se passent dans différents types d'endroits, comme des monuments nationaux, des artothèques, des fracs, des centres d'art indépendants. Et on avait constaté à la suite de la foire que beaucoup d'événements se déroulaient dans ces lieux-là, mais qui n'étaient pas forcément connus du public. Donc nous, notre rôle, c'est de les faire connaître et de favoriser ces rencontres, parce que ce que je dis souvent, c'est que pour nous qui sommes dans le milieu de l'art, rencontrer un artiste, c'est quelque chose d'assez banal. En revanche, pour beaucoup de public, l'artiste est quelqu'un. On n'imagine pas que c'est un métier, on n'imagine pas qu'on puisse en vivre, on n'imagine pas qu'on puisse apprendre des choses en leur parlant.
Donc vous avez choisi de mettre en avant le dessin et le dessin contemporain parce que vous dites qu'en fait c'est une première marche vers un accès à l'art plus général. C'est aussi pour des raisons pratiques, mais il y a aussi, j'ai l'impression, une légitimité que s'est faite le dessin aujourd'hui qui n'avait peut-être pas encore il y a quelques décennies.
Alors effectivement, ce qui est satisfaisant à l'entrée de cette 17e édition du dessin contemporain, c'est de voir que les artistes qui sont des artistes principalement dessinateurs ont acquis une véritable place au sein de l'art contemporain d'une manière plus générale. Donc voilà, la satisfaction qu'on peut avoir.
Bonjour, donc Julie Defresne, je travaille à la Galerie Le Long.
Alors nous sommes justement dans votre stand ici au salon. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour une galerie comme la Galerie Le Long, qu'est-ce que ça représente, cette foire de dessin contemporain ?
Alors c'est une foire qu'on aime et à laquelle on participe depuis ses débuts. On apprécie le fait qu'il soit centré sur un thème et les artistes aiment avoir des contraintes aussi. Et donc là, la contrainte est donnée, c'est le papier. Et donc ils apprécient vraiment avoir cette thématique.
Ce qui est intéressant quand on arrive dans votre stand, c'est qu'on voit que le dessin, c'est en effet comme contrainte le papier, mais qu'à part ça, sur le papier, il y a des choses très différentes. On a de la couleur, du noir et blanc, on a des techniques différentes. En fait, le dessin, c'est très varié finalement.
Tout à fait. On a des artistes comme David Nash qui vont utiliser des pigments, comme Yann Vos qui vont utiliser différentes techniques et du collage. On va avoir Christine Safa qui, elle, va même préparer son papier avec une poudre de marbre. On va avoir Pierre Alechinski avec une eau forte. Enfin, vraiment, on a différentes techniques. Et là, on voit Marc Desgrandchamps aussi avec de la gouache. Enfin, on a vraiment différents aspects de la pratique du dessin. Avec le fusain et la pierre noire pour Ernest Pignon-Ernest. Voilà,
et puisque vous avez l'habitude de participer à cette foire, quand le public arrive, est-ce que ce sont principalement des acheteurs ou plutôt des curieux ou des gens qui simplement viennent voir ce qu'est le dessin contemporain aujourd'hui ?
Alors, on a de tout. On a des clients réguliers qu'on voit sur d'autres foires, même à l'étranger. On a des curieux qui viennent juste regarder et apprécier la foire et les
comme on le ferait au musée finalement.
Exactement. Surtout que c'est une foire qui est à taille humaine. Mais voilà, non, on a de tout. Après, on a aussi des artistes qui viennent voir toutes les techniques qui se font maintenant sur le papier et qui s'inspirent certainement aussi de certaines œuvres qu'ils voient.
Alors, le Drawing Now Art Fair ouvre ses portes. D'ici quelques instants maintenant, tous les exposants sont là. Les derniers préparatifs se font sous mes yeux. On accroche les derniers dessins, on prépare les éléments de communication car on peut venir, bien sûr, voir la vitalité du dessin contemporain dans toute sa diversité ici, mais c'est également une foire, donc on vient pour acheter. Et c'est un moment important pour les galeries qui défendent des artistes qui utilisent comme médium le dessin. D'être présent ici et de pouvoir à la fois contenter les collectionneurs, mais aussi conquérir un nouveau public.
Bonjour, Karine Tissot, je suis directrice de Drawing Now Art Fair, le salon du dessin contemporain.
Le salon dure quelques jours ici au Caron du Temple. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va se passer, ce qu'on y voit ?
Eh bien écoutez, ici vous allez découvrir 73 galeries internationales qui vous présentent près de 300 artistes qui ont fait du dessin leur pratique artistique principale.
Et le public qui vient au salon, ce sont des acheteurs, on est quand même dans une foire, donc j'imagine que le but des galeries qui sont là, c'est de vendre. Mais est-ce qu'il y a aussi des curieux ou simplement des amateurs ?
Eh bien, heureusement pour les galeries, il y a des acheteurs et des collectionneurs, mais il y a aussi surtout beaucoup d'amateurs. C'est quand même extraordinaire de pouvoir voir toutes les dimensions du dessin contemporain aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que très souvent, les artistes sont présents. Et je trouve que c'est tellement rare aujourd'hui de rencontrer des artistes que c'est une joie aussi pour les amateurs de pouvoir découvrir leur travail et discuter avec eux.
Dans cet écosystème-là, il y a également un prix qui est remis. Quelle place il prend, ce prix ?
Mais écoutez, le prix Drawing Now prend une place importante. On a remis hier notre 13e prix à Tatiana Wolska et il rassure, il complimente des artistes qui sont en milieu de carrière et qui ont été accompagnés depuis un certain temps par leur galerie. Et en plus, ils bénéficient bien d'un prix de 5000 euros, d'un accompagnement à une exposition l'année prochaine au sein du Drawing Lab et de l'édition d'un catalogue. Donc effectivement, pour un artiste aujourd'hui, c'est une super visibilité.
Je crois qu'on va aller là en rencontrer justement la lauréate de cette année. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour. Drawing Now Art Fair ouvre ses portes et ce jusqu'à 21h ce soir. Dear exhibitors, dear visitors, Drawing Now Art
Fair. Je m'appelle Tatiana Wolska, je suis artiste plasticienne polonaise, mais je fais les études des beaux-arts à la Villa Arson à Nice.
Et vous venez d'être lauréate du prix Drawing Art Fair de cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix ?
Je suis surprise par ça. À vrai dire, j'aurais jamais cru que ça va se passer. Donc, ouais, c'est immense comme nouvelle.
Est-ce que vous pourriez décrire votre dessin, votre pratique pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas vos travaux ?
Allez, dessin qui est un peu sculpture.
Oui, ce sont des formes abstraites, on peut dire ça ?
Absolument, ouais. Mais...
Aussi coloré, il y a des petits et des grands formats.
Oui, il y a aussi des wall drawings. Donc oui, c'est... mais en général, j'ai toujours mon petit carnet de A4 sur mon dos et j'ai toujours ma trousse, donc je m'arrête un peu de partout et je dessine.
Et qu'est-ce qu'on peut voir ici au salon de vos œuvres ?
Là, il y a 30 dessins, je pense qu'ils sont issus de mes carnets, justement. C'est mon pain quotidien, comme ça.
Est-ce que c'est important pour vous d'être présente ici, à la foire? J'imagine que du coup, vous rencontrez des visiteurs qui viennent soit acheter, soit découvrir.
Ben, je ne fais pas souvent ça. J'ai des enfants, je suis toujours dans mon atelier entre mes amis et les enfants. Et c'est vraiment un exercice pour moi. Nouveau ? Oui, nouveau.
De rencontrer les gens directement ?
Oui, oui, c'est vraiment très, très, très rare. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour. Je peux vous poser une ou deux questions ? Vous représentez quelle galerie ?
C'est la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois.
Et quels sont les artistes exposés ?
Alors ici c'est un solo show d'Emmanuel Proveller, qui est un artiste polonais, juif polonais, qui est né en 1918 et qui a immigré en France après avoir survécu la Seconde Guerre mondiale et au camp, et qui a donc oscillé toute sa vie entre l'abstraction et la figuration. Et le travail que nous avons avec la galerie aujourd'hui, c'est de faire redécouvrir un peu ce peintre qui a été connu de son vivant, qui a été représenté par de grandes galeries, qui a été défendu par Gabriel Picabia, mais qui depuis n'a pas eu la reconnaissance, je pense, qu'il mérite.
Est-ce que ça représente le salon du dessin contemporain pour une galerie comme la vôtre ?
Alors pour nous, c'est l'occasion de toucher un public un peu différent, c'est-à-dire parfois plus jeune, des gens qui... sont généralement plutôt curieux, plutôt informés et assez enthousiastes aussi.
Bonne foire, alors merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à vous, Marie Sorbier. La semaine prochaine, vous nous proposerez des réécoutes de certains épisodes du Grand Tour en commençant lundi par l'exposition Lacan à Pompidou-Metz. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.